Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est midi à Kinshasa, 13h à Goma, au Nord Kivu. Voici les titres de ce journal. Au Nord Kivu, des véhicules blindés de la SADC ont été touchés ce jeudi en cette fin de matinée par deux bombes dans la cité de Sake, un groupement de Kaburonza dans le territoire de Masisi. Le bilan de cette explosion fait état de deux personnes blessées, dont un civil et un militaire du contingent tanzanien. En Ituri, l'état de la route nationale numéro 27, Bunia-Mahagi, est déplorable en cette période pluvieuse. Une centaine de voitures sont bloquées depuis trois jours sur les axes Nyampala, Pimbo, Djougou Centre. Des usagers craignent que cette situation n'entraîne l'inflation des prix des produits de première nécessité sur le marché. L'invitée de ce journal est la coordinatrice des urgences Médecins Sans Frontières. Marie Brune parle du non-respect du caractère civil des camps de déplacés du Nord Kivu, situation qui met en danger des populations. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre écoute. Au Nord Kivu, des véhicules blindés de la SADC ont été touchés ce jeudi en fin de matinée par deux bombes dans la cité de Sake, en groupement Kamuronza. Nous sommes dans le territoire de Masisi. Le bilan de cette explosion fait état de deux personnes blessées, dont un civil et un militaire du contingent tanzanien. Le point avec Gabriel Wamenya.
C'est aux environs des 11 heures que les deux détonations ont été entendues non loin du point de péage et route au rond-point sur l'axe Kichanga dans la cité de Sake, affirment plusieurs sources dans la zone. Probablement, les deux projectiles en provenance du pic de la colline Kiuli, occupé toujours par les rebelles du M23, ont visé les véhicules blindés de la mission de la SADC du contingent tanzanien en stationnement. Les mêmes sources confirment que les soldats tanzaniens étaient en mission de reconnaissance dans la zone. Le bilan encore provisoire de cette attaque fait état de deux personnes blessées, dont un militaire tanzanien et un civil touché par les éclats des bombes. La situation sécuritaire reste toujours imprévisible tout autour de la cité de Sake, contrôlée par l'armée et ses partenaires, dont la MONUSCO et la force de la SADC. Signalons que jusqu'ici, ces informations ne sont pas encore confirmées ni par l'armée ni par la SADC. Goma, Gabriel Wamé. Radio Kapi.
Je le disais donc, au Nord Kivu, une certaine source dénonce ce qu'elle qualifie de banditisme orchestré par des hommes armés dans la cité de Sake. Ce phénomène est consécutif à la reprise des affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise qui s'intensifie autour de cette entité. Selon ces sources, plusieurs maisons et biens laissés par la population déplacée sont vandalisées. De plus, des cas de tracasserie et le rançonnement systématique des déplacés se multiplient. Des détails avec Bernard Denyangui.
Quelques maisons des habitants de Sake en déplacement dans l'ouest de la ville de Goma se retrouvent avec des portes défoncées, des toitures arrachées et des biens de valeur laissés à l'intérieur pillés, indiquent ces sources civiles. Les témoignages font état également du pillage par les hommes armés des animaux domestiques, des chèvres, des poules laissées sur place par les déplacés qui sont partis dans la précipitation. En plus de cette insécurité, certains habitants en déplacement qui tentent de retourner dans la cité pour récupérer leur récolte laissée en stock dans leur maison seraient aussi tracassés et parfois rançonnés par les mêmes hommes armés. Le porte-parole de l'armée n'était pas disponible toute la matinée de ce jeudi pour apporter des précisions. Dans une interview accordée à Radio Kapi hier, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike a indiqué que l'armée est au courant de tout ce qui se passe. Les enquêtes des services habilités en cours devraient donner des précisions sur les véritables auteurs de ces pratiques qui portent préjudice aux populations civiles déjà fragilisées par les effets collatéraux des combats. Goma, Bernard Denyangui, Radio Kapi.
Et toujours au Nord Kivu, dans la ville de Beni, la vie a repris normalement depuis quelques mois dans les quartiers Liakobo et Mukulia, situés sur l'axe routier Beni-Butembo. C'est après le retour sur place des habitants qui avaient abandonné les milieux il y a près de trois ans à la suite de l'insécurité caractérisée par les attaques des groupes Mai Mai. Aujourd'hui, un calme s'observe dans ces deux quartiers périphériques de Beni. Marc Marofimbo pour plus de détails.
Depuis plusieurs semaines, toutes les activités se déroulent normalement dans les quartiers Liakobo et Mukulia à Beni. Ces derniers mois, un retour de la population est observé sur place. Les écoles ont ouvert et les commerces fonctionnent désormais normalement, ce qui n'avait pas été le cas depuis trois ans. En 2021, en effet, les habitants de ces deux quartiers avaient abandonné le milieu à la suite de l'insécurité pour se diriger vers Maboya et Butembo. C'était pour fuir les exactions des combattants Mai Mai, notamment ceux du groupe de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, IPLC. Aujourd'hui, 70% d'entre eux sont retournés dans le milieu où la présence de l'armée et de quelques policiers dans la zone rassure les habitants. Selon des sources administratives locales, certes, la présence de ces combattants est toujours observée dans les environs des champs de la population, mais les habitants vaguent malgré tout à leurs activités champêtres sans être inquiétés. Signalons que les vallées et les collines de Kiandaho et Kabindo, proches du quartier Yakobo, sont des greniers de la ville de Beni. La population y produit les maniocs en grande quantité qui est évacuée vers les centres de consommation. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
En Ituri, les violences attribuées aux groupes armés ont causé la mort d'au moins 68 civils. C'est ce qui ressort du rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, publié mardi dernier. Dans ce document, cette agence l'ONU indique que les tensions intercommunautaires sur fond des conflits fonciers et de lutte pour le contrôle des ressources minières sont l'une des causes de la crise en Ituri. Des détails avec Jean-Claude Lokidile.
Le contexte sécuritaire est marqué par une récrudescence des incidents de violence par les groupes armés. Plusieurs cas de meurtres de civils, mouvements de population et autres incidents de protection ont été rapportés. Selon OCHA, qui cite le responsable de la société civile, depuis le 1er janvier, des attaques impliquant des groupes armés ont déjà coûté la vie à au moins 68 civils. La plus récente est survenue entre le 9 et le 13 février, où au moins 17 civils ont été tués dans plusieurs attaques. Dans les territoires de Djougou et Iromou, les tensions intercommunautaires sur fond de conflits fonciers et de lutte pour le contrôle des ressources minières sont l'une des causes de la crise en Ituri, particulièrement dans la zone de santé de Damas, en territoire de Djougou, souligne l'agence onusienne. Pendant ce temps, 15 000 personnes sont retournées dans la zone des Ofay en janvier dernier à la faveur du dialogue entre les groupes armés à l'initiative des autorités territoriales. OCHA maintient le plaidoyer auprès des autorités provinciales pour le renforcement de la protection des civils, particulièrement les déplacés et retournés. Bounia, Jean-Claude Loki, dit les Radio Okapi.
En bref, une délégation des membres du Conseil de sécurité du Tanganyika, conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, séjourne dans le territoire de Moba depuis mardi dernier. Elle évalue la situation sécuritaire dans les zones après les soulèvements de la population dimanche dernier. Cette dernière protestait contre la recrudescence de l'insécurité à Moba. Le ministre provincial de l'Intérieur annonce que les auteurs de ces incidents seront transférés à Kalemi pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. En bref encore, notez que le président Félix Tshisekedi a bouclé sa mission officielle en Belgique ce jeudi. C'est dans ce cadre qu'il s'est entretenu avec les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, dont le siège est à Bruxelles. Selon la présidente, les hôtes du chef de l'État ont promis d'accompagner les efforts de la RDC auprès des instances européennes et internationales pour défendre sa souveraineté. Et puis, poursuite de la mission mixte MONUSCO-Système de l'ONU et le gouvernement congolais au sud Kivu, à l'étape d'Ouvira, la délégation a pris part à une réunion du Conseil local de sécurité au cours de laquelle plusieurs préoccupations soulevées par les autorités civiles, militaires, policières et les services de sécurité ont eu des réponses. La patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, et Bruno Le Marquis, ainsi que des représentants des agences, fonds et programmes des Nations Unies, le gouvernement provincial du Sud Kivu et un conseiller du chef de l'État prennent part à cette mission d'information. Des détails avec Fiston Goma.
Les représentants du gouverneur du site Kivu et ministre provincial des ITPR Gaston Sissawanumbe a expliqué que le processus de désengagement évolue progressivement dans la province pilote du site Kivu.
Évidemment, les préoccupations sont légitimes. Est-ce qu'il n'y aura pas de gap? Est-ce que cette sécurité qu'on était en train de bénéficier, est-ce qu'on va continuer à le recevoir? Et moi ici, nous sommes en tant que gouvernement pour rassurer notre population, nos communautés, que le gouvernement va devoir assister ses responsabilités dans différents domaines. Même si la MONUSCO est partie, il y a les systèmes des Nations Unies qui restent. Mais maintenant, c'est le moment pour notre population de compter sur leur gouvernement, d'avoir confiance au gouvernement et de dire merci à tout ce que la MONUSCO a fait.
Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a souligné que les priorités pendant la période de la transition seront axées sur la protection des civils, les droits de l'homme et la protection de l'enfant, ainsi que sur le programme PDDRCS et la communication.
L'objectif, c'est d'évaluer ensemble la mise en œuvre du plan de désengagement qui a été décidé l'année dernière et endossé par le Conseil de sécurité en décembre 2023. Pour l'instant, nous sommes en train d'être dans la bonne ligne de la mise en œuvre de ce plan de désengagement.
La délégation s'est rendue ce jeudi à Mikenge dans le haut plateau du secteur d'Itomboué où les déplacés internes posent encore un problème de sécurité dans leur zone de retour. D'Ouvira, Fiston Ngoma Mayaba, la Radio Okapi.
Et toujours au sud Kivu, la population de Kamanyola appelle le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités en main suite au retrait de la Monisco de la cité de Kamanyola. Elle s'est exprimée ainsi à l'issue de la remise de la base de la Monisco Kamanyola au gouvernement congolais hier mercredi. Joséphine Mugoto, présidente de la société civile Force Vive sous noyau de Kamanyola, l'a dit au micro de Rachel Kessembangou.
Aujourd'hui, comme le gouvernement a décidé, compte tenu de leurs accords, quant à nous vraiment, c'est demander au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités en main. Parce que même jusqu'à la fin du contraire, la Monusco devrait partir. C'est de prendre les responsabilités en main, que la police fasse son travail comme il faut, que le gouvernement renforce toujours la capacité de ces éléments. Parce que dans tous les cas, la Monusco intervenait comme un partenaire. Il venait en appui, mais la police et les FARDC, ce sont elles qui sont les garants de la sécurité.
En Ituri, circuler sur la route nationale numéro 27 entre Bounia et Mahagi en cette période pluvieuse est un parcours de combattants. Des gros bourbiers et de la boue ne rendent les trajets très difficiles pour les véhicules. Une centaine de voitures sont bloquées depuis 3 jours sur les axes Nyampala, Pimbo, Djougou Centre. Des usagers dont certains ont déjà passé plusieurs jours en route avec leurs marchandises, craignent que cette situation entraîne l'inflation des prix des produits de première nécessité sur les marchés. Martial Kizabiamungu a parcouru cette route. Voici son reportage.
Le calvaire des usagers commence précisément à la localité d'Yampala, à une quarantaine de kilomètres au nord de Bounia. La pluie qui s'abat dans la région depuis 3 jours rend difficile la circulation à cause de gros bourbiers observés sur cette voie. Si des camions, remorques et citernes transportant des produits pétroliers qui ont du mal à progresser bloquent les passages, des voitures de transport en commun arrivent tout de même à s'effrayer un chemin pour avancer bien que péniblement. Même décor sur l'axe Matete Pimbo, Djougou Centre. Ce sont des centaines de véhicules à destination de Bounia ou en provenance de Mahagi qui sont coincés dans la boue, notamment près de Djougou Centre où s'est formé un gros bourbier. Des passagers que nous avons interrogés sur place craignent que cette situation n'entraîne une augmentation des prix de plusieurs produits de première nécessité sur le marché à Bounia et dans les autres centres commerciaux. Depuis Ngoté, dans le territoire de Mahagi, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Retour au sud Kivu où l'eau de la régie des eaux ne coule pas sur les robinets dans la ville de Bukavu depuis plus d'une semaine maintenant. Et pour cause, une panne survenue sur le tuyau principal de la régie des eaux. Les habitants de la ville de Bukavu recourent à l'eau du lac Kivu avec plusieurs conséquences. La société civile invite le gouvernement provincial à s'impliquer d'urgence pour décanter la situation. Des détails avec Emmanuel Elamejo Akabedi.
Les robinets de la régie des eaux de la ville de Bukavu sont à sec depuis plus d'une semaine maintenant. Les femmes et enfants recourent à l'eau du lac Kivu, pourtant impropre à la consommation. Voitures et camionnettes sont maintenant affectées à la recherche de l'eau dans les bidons jaunes. Élèves et étudiants, fonctionnaires, ménagères et même les hôpitaux, c'est le calvaire. La régie des eaux, dans un communiqué, indique avoir connu une panne sur sa tuyauterie principale qui alimente la ville de Bukavu. Le réseau est menacé par des constructions anarchiques au-dessus de la conduite. La société civile interpelle le gouverneur. Elle invite à résoudre cette question avec urgence.
La nouvelle dynamique de l'océan civil est très préoccupée par le pénurie en eau potable devenue quasi permanente dans la ville de Bukavu. Face à cette situation, la NDC invite le gouverneur de province à s'impliquer personnellement dans cette crise d'eau en prenant des mesures urgentes qui s'imposent, dont la démolition sans complaisance de toutes les habitations érigées sur les installations de la régie des eaux.
Signalons qu'avec cette carence d'eau à Bukavu, dans l'espace d'une semaine, plusieurs cas de noyades sont enregistrés au lac Kivu pour les femmes et enfants qui vont chercher de l'eau devenue rare. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Guinée, le journaliste Sekou Jamal a été libéré. Le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse était détenu depuis plus d'un mois pour avoir appelé à manifester contre la censure. Suite à sa libération, le syndicat a annoncé la suspension de la grève.
L'invité.
L'invitée de ce journal est la coordinatrice des urgences de Médecins Sans Frontières. Marie Brune parle du non-respect du caractère civil des camps des déplacés au Nord Kivu, situation qui met en danger les populations. La coordinatrice des urgences de Médecins Sans Frontières s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Marie Brun, bonjour.
Bonjour.
Pour vous, le caractère civil des camps des déplacés n'est plus respecté autour de Goma. Pouvez-vous nous présenter la situation actuelle ?
Alors oui, depuis fin janvier, on a constaté effectivement que l'insécurité était grandissante dans les camps et que le caractère civil des camps déplacés n'était pas toujours respecté. Ça c'est pour nous quelque chose qui est compliqué à gérer parce que ça impacte nos activités, comme je le disais. Donc parfois ça nous amène à suspendre nos activités ou à réduire en fait les horaires de nos cliniques. Et donc évidemment ça a un impact sur nos bénéficiaires et sur la population des déplacés. Après, c'est aussi quelque chose qui nous a été remonté par les déplacés eux-mêmes, parce que nous, on n'est pas présents la nuit, mais évidemment, eux, ils le sont. Et donc, l'insécurité est surtout grandissante la nuit et a un impact sur l'accès aux soins pour les personnes.
La situation, c'est juste autour de Goma ou c'est au niveau de la province partout où il y a eu des affrontements ?
C'est un peu la même chose dans la province. Hein. Voilà. Ce qu'on voit à Goma, c'est aussi ce qu'on voit dans le petit Nord Kivu, où on a des projets aussi à Rutshuru, à Bambou, à Kibirizi, à Binza, à Mueso.
Cette insécurité grandissante dans les camps impacte sur l'accès aux soins par les déplacés.
Oui, j'avais pris l'exemple qui, pour moi, est un exemple assez... alarmant, c'est vraiment le cas des femmes enceintes la nuit. Donc il y a certaines femmes enceintes qui décident d'accoucher dans la hutte au lieu de se rendre dans une structure de santé parce qu'elles se sentent pas en sécurité pour aller dans une structure de santé. Et après, on a aussi des cas de femmes enceintes qui nécessiteraient une césarienne et qui du coup ne se rendent pas dans la structure à temps. Et donc là, ça a évidemment des conséquences qui peuvent être assez dramatiques. Donc pour nous, l'indicateur des femmes enceintes est un indicateur qui, en général, nous apporte beaucoup d'éléments sur le comportement de santé des bénéficiaires.
Toujours par rapport à cette insécurité dans les camps des déplacés, cela a conduit à l'accroissement des cas de violences sexuelles.
Oui, alors déjà avant cette crise dans la crise, hein, si on peut l'appeler comme ça, entre juillet 2023 et janvier 2024, on a vu une augmentation de 26% déjà des cas. Et quand on regarde simplement les chiffres du début d'année, entre janvier et février, on a déjà une augmentation de 34%, ce qui pour nous est assez considérable. Et évidemment, c'est amplifié par cette situation sécuritaire qui s'est dégradée.
Les violences sexuelles, on en parlait en dehors des camps, lorsque les femmes allaient prendre les bois. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est quoi la situation ?
Comme on le disait, effectivement, il y a toujours des cas qui nous sont reportés de personnes, et c'est la majorité des cas, hein, essentiellement des femmes, mais pas que des femmes. On voit aussi malheureusement des enfants, des mineurs, et aussi des cas d'hommes. Mais la majorité des cas se passe pendant la collecte du bois. Ce qu'on observe récemment qui est assez nouveau, c'est à cause de cette insécurité dans les camps, il y a des cas qui nous sont reportés qui arrivent à l'intérieur des camps. 50% des cas nous sont reportés comme étant commis par des personnes armées. Voilà.
Et aujourd'hui, c'est quoi le message des MSF pour la protection des camps, des sites, des déplacés ?
C'est pas le message seulement de MSF, évidemment, même si on peut difficilement parler au nom de tous les acteurs, mais c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les clusters, parce que comme on le disait, ça a un énorme impact sur nos activités et donc du coup sur l'assistance humanitaire qui peut être apportée. Donc nous, on essaye de faire du plaidoyer auprès de toutes les autorités. On a fait beaucoup de plaidoyer par rapport à la présence d'artillerie lourde qui se situe proche des camps de déplacés et évidemment qui soumet nos équipes à un stress intense, mais aussi qui portent nos équipes, qui mettent nos équipes à risque. Donc on essaye de faire passer ce message. Comme je le disais, la semaine dernière, on a observé qu'il y avait un petit peu moins d'utilisation de l'artillerie. Voilà, on ne sait pas si nos messages ont été entendus, mais c'est les messages qu'on essaye de passer.
Marie Brun, je rappelle que vous êtes la coordonnatrice des urgences chez MSF. Merci.
Merci.
La coordinatrice des urgences de Médecins Sans Frontières s'entretenait à Goma avec Rosalie Zawadi. Fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté.